Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du Smart Agri Forum 2020 en compagnie de Bruno Faure, président du département du Cantal et fondateur, on peut le dire, de ce Smart Agri Forum qui a vu sa première année se dérouler l'an dernier, en 2019, avec l'envie, effectivement, de porter une parole autour de l'agriculture optimiste et innovante, dans des temps qui étaient à l'époque fortement marqués par l'agribashing. Ça a pas mal changé depuis avec le Covid, qui nous a remontré à quel point nos agriculteurs nous étaient, pour le coup, essentiels, et avec des circuits courts dont on parlera cet après-midi, qui nous ont permis de peut-être mieux les connaître et d'aller à leur rencontre. En ligne, nous a rejoint Sébastien Windsor, le président de l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture. Merci, Monsieur le Président, d'être avec nous. Et doit nous rejoindre dans quelques instants Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ses services me l'ont assuré, mais il était sur une réunion. Enfin, voilà, on va l'accueillir quand il se présentera, évidemment. Sans plus attendre, Bruno Faure, donc je voulais revenir sur pas la genèse, parce que c'est pas si vieux, du Smart Agri Forum, mais l'an dernier, à la fin de ce Smart Agri Forum, on a eu envie de porter quelque chose au national ensemble avec tous les participants du Smart Agri Forum. Ça s'appelait la French Agri. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, l'idée, alors on n'a rien inventé sur le concept. Hein. L'idée, c'était, on a regardé ce qui se faisait. Et puis, c'est vrai que ça a débuté il y a quelques années. Mais c'était, enfin, il y a déjà 6-7 ans avec la French Tech. Alors, je me suis débarrassé
de
mon masque, même si on a pris l'habitude de parler un peu avec maintenant. Voilà, on avait vu effectivement qu'il y avait eu des démarches, notamment au niveau de start-up, au niveau de la French Tech. Ça date des années 2013-2014. Et ça avait permis, effectivement, de faire connaître, de faire rayonner, on va dire, toutes nos startups, le savoir-faire français à l'international. Il y a eu ensuite les French Labs également qui ont été faits. Donc, l'idée, c'était de dire, mais est-ce qu'on n'a pas capacité, parce qu'on a une agriculture qui est performante, qui a des savoir-faire, de faire une French Agri, hein, avec un coq couleur terre, pour faire, j'allais dire, rayonner l'agriculture et surtout les produits français, notamment à l'export.
Ouais.
Et donc, j'avais rencontré moi des équipes de Didier Guillaume l'année dernière à l'occasion du salon de l'agriculture, ouais, pour lui présenter la démarche. Alors, l'intérêt, c'est la capacité à fédérer autour de ça l'ensemble des acteurs du monde agricole, et puis d'avoir le soutien effectivement du gouvernement, surtout sa volonté de vouloir le mettre en place. Changement de ministre. Donc, bien évidemment, la volonté, c'est que l'équipe ministérielle actuelle, qui est derrière Julien de Normandie, prenne à bras le corps, on va dire, cette démarche qui est entièrement collective.
Et effectivement, on va évoquer ce point-là parce qu'il y avait de premiers contacts. Vous avez aussi réécrit à Julien de Normandie à ce sujet-là. Hein, parce que, en se disant, il y a eu la French Tech, la technologie a eu droit à sa French Tech, l'industrie a eu droit à sa French Fab, dont on a vu qu'elle se parait aussi d'un coq vert dernièrement, puisqu'elle elle passe au green, si je puis dire, et l'agriculture qui pèse quand même extrêmement lourd, et on en est content, hein, dans l'économie nationale, eh bien, quel est le moment auquel elle pourrait, elle aussi, effectivement, accéder à ce type de reconnaissance, parce que quand vous voyez la French Tech, en fait, ça veut dire que vous avez des startups qui, des régions qui partent à l'international sur des grands salons internationaux. La French Fab, c'est pareil. Aujourd'hui, est-ce que on a une démarche organisée nationale pour l'agriculture française en vue de montrer sa présence et sa capacité d'innovation au niveau mondial? La réponse est non. Donc, de ce point de vue-là, on a souhaité mettre ça, je dirais, sur la table. En attendant le ministre Julien de Normandie, je souhaiterais solliciter Sébastien Windsor. Donc, Sébastien Windsor, président de la PCA, je rappelle que vous êtes ingénieur des mines de Nancy. Je le dis parce que c'est relativement atypique. Vous êtes polyculteur, éleveur en Normandie, et avant de présider la PCA, vous étiez président de l'ACTA. On a accueilli il y a quelques instants Jean-Paul Borde, que vous connaissez bien, qui est le groupe donc des instituts de recherche et d'ingénierie de l'agriculture. Donc, on peut dire que vous avez un profil assez scientifique, assez ingénieur, et que vous n'avez aucune résistance à l'innovation. Est-ce qu'on peut le dire comme ça?
Oui, je pense que Ça a toujours fait partie, y compris dans mon choix de revenir dans ce beau métier qui est celui de l'agriculture, de mes motivations et de me dire, voilà, c'est probablement, d'ailleurs, contrairement aux images que peuvent avoir nos concitoyens, un des secteurs où la technologie et l'innovation est le plus présent. Et par exemple, quand on parle du numérique, on entend très vite parler de tout ce qui s'est fait dans le milieu médical autour du numérique, mais je pense que l'agriculture n'a rien à envier à ces secteurs-là, si peut-être par rapport au médical, mais j'allais dire assez clairement, on est plutôt un secteur plutôt en avance, notamment sur le sujet du numérique par rapport à ce qu'on sait faire autour de l'agriculture. Donc, pas besoin de pâlir de ces sujets-là.
Alors, dans l'actualité récente, il y a deux faits saillants. Il y a la défense et le maintien des budgets des chambres d'agriculture, obtenus notamment par la PCA pour l'année qui vient, et articulés avec un plan de relance agricole d'1,2 milliard d'euros, hein, si je ne me trompe pas, où finalement, on se dit que les chambres d'agriculture seraient aux premières loges pour assurer ce rôle de transformation locale de ce plan de relance et notamment d'accompagnement à l'innovation. Est-ce que ça fait partie de la feuille de route de votre plan stratégique 2019-2025?
Absolument, et si vous me permettez, je vais, pour essayer d'illustrer mes propos, partager quelques diapositives. Hop, si vous me laissez juste quelques secondes.
Allez-y, on a.
Voilà, je pense que vous devez les voir.
On les voit.
Je vais pouvoir passer sur les premières assez rapidement. Juste dire, et je vais rebondir sur les propos de Monsieur Faure, on a essayé de lister toutes les startups françaises qui peuvent être des acteurs de l'innovation. Donc, on a appelé ça l'agritech en France. Et vous voyez le nombre absolument colossal. Alors, c'est écrit tellement petit que vous avez du mal à les identifier, mais il y a un nombre colossal d'acteurs de l'innovation en France. Pour autant, je pense qu'on ne fait pas de l'innovation pour faire de l'innovation. Et c'est là qu'on va reboucler avec le projet stratégique qu'on a apporté. Pourquoi se doit-on de faire de l'innovation et quel doit être le rôle des chambres dans cette innovation? D'abord, on doit faire de l'innovation pour servir les enjeux un peu stratégiques qu'on a identifiés. Ils sont rappelés là, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Simplement dire, si je prends les grands enjeux, il y a des enjeux autour de l'accompagnement des agriculteurs. Et là, on a besoin d'innovation, aussi bien pour l'accompagnement traditionnel, pour optimiser les cultures, et je reviendrai, ou optimiser nos techniques d'élevage, et j'en reviendrai sur un certain nombre d'exemples un peu saillants. Mais on a besoin aussi d'innovation, par exemple, pour imaginer l'agriculture de demain. On sait que face au réchauffement climatique qu'on vit aujourd'hui, face aux attentes de la société, un certain nombre de sujets viendront par notre capacité à amener des réponses un peu différentes, et notamment en termes de transition, par exemple, dans les exploitations. On sait que c'est un enjeu fort devant nous. Et là, on a besoin d'innover, et le rôle des chambres, c'est dans ces innovations-là, par exemple, de piloter dans ces fermes expérimentales un certain nombre de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles organisations. Je peux citer, par exemple, des choses qui se sont faites sur les anciennes bases aériennes. Il y a, par exemple, dans le Grand Est, autour de Reims, une base aérienne qui a été transformée en plateforme expérimentale où on teste comment organiser, maximiser la production en profitant au mieux de la photosynthèse, en faisant 3 cultures en 2 ans, en allant peut-être bouleverser des choses qui ne sont pas de l'innovation techno, mais qui sont de l'innovation plutôt dans l'organisation. On a un sujet autour du numérique qui est absolument colossal, et je vais essayer de l'illustrer là aussi derrière. Mais j'allais dire, tout ça est au service de l'accompagnement des agriculteurs pour les aider à ces transitions, pour les aider à trouver de nouveaux débouchés. On a autour de ça un certain nombre d'innovations à pousser dans, par exemple, on voit beaucoup de choses autour de la production d'énergie, mais demain, la capacité à stocker du carbone doit nous permettre de trouver des valorisations peut-être complémentaires à celles qu'on a aujourd'hui. Ça fait partie des choses qui sont d'ailleurs accompagnées dans le plan de relance. Donc, on a dans de nouvelles filières aussi autour de circuits courts, on a beaucoup d'innovations. Je vais prendre un exemple. Pendant cette période de confinement, dans la phase 1, on a vu augmenter de 400% l'achat en drive chez les agriculteurs, donc en commande via des sites internet et click and collect où je vais chercher. Et bien, tous ces modes d'innovation au service de nouveaux débouchés doivent être aussi largement poussés demain. Et j'allais dire, pour illustrer encore une fois les choses, on ne peut pas le faire tout seul. On va s'inscrire dans une continuité de choses, parce que pour innover, si je prends l'exemple du numérique, on voit très bien que le premier enjeu, c'est d'aller collecter et d'avoir des données. Et là, il y a les chambres ne sont pas l'acteur qui collecte toutes les données. Il y a des données qui sont collectées par les coopératives, il y a des données qui sont collectées en direct par l'agriculteur. Derrière, on voit bien que pour innover, il va falloir un peu être en capacité d'aller chercher toutes ces données pour faire des outils d'aide à la décision, par exemple, et que pour ça, il faut standardiser les données. Donc, on a créé un outil de standardisation qui s'appelle Numagri. On a besoin d'aller gérer le consentement des agriculteurs. C'est un enjeu un peu majeur au travers de la charte Data Agri. Et on est en train de travailler un routeur parce qu'aujourd'hui, les lieux où on reçoit les consentements sont colossaux. Donc, quand on veut mixer des données, il faut mixer les consentements. On a besoin de stocker, puis on a besoin de créer des plateformes d'échange et on a créé API Agro pour ça. Et puis derrière, on a besoin de développer les usages, d'amener des outils de service aux agriculteurs. C'est le cas de mes parcelles, mais de tout un tas d'autres outils. Et on voit bien que si un seul maillon manque, on n'est plus en capacité de porter ces innovations correctement et on a des trous dans la raquette qui amènent des difficultés. Et donc, l'enjeu des chambres, c'est aussi d'être à la consolidation de ces acteurs. Notre enjeu, c'est de travailler sur l'usage final. Je pense qu'on n'a probablement pas à être l'acteur qui va aller imaginer ou peut-être, en tout cas, pas le seul acteur qui doit aller imaginer et repérer les systèmes de demain, même si on doit jouer notre rôle. Et puis, on doit caractériser tout ça et surtout l'amener aux agriculteurs, le rendre accessible aux agriculteurs et le rendre utile aux agriculteurs. Alors, si je descends pour vous donner quelques exemples, et je vais essayer de les passer très vite, de l'innovation telle qu'elle peut être portée sur la fertilisation. Aujourd'hui, on a commencé avec Farmstar, qui commence à être un peu connu, donc des outils satellitaires Airbus pour piloter nos fertilisations. Mais encore une fois, c'était la première étape. Derrière, on a essayé de démocratiser ça. On a vu apparaître des applications smartphones qui permettent simplement avec des photos de votre colza, par exemple, d'imaginer la biomasse. On est en train d'essayer de l'étendre à l'herbe, par exemple, avec des images satellites. Et puis, pour que ça coûte moins cher, on essaye de s'appuyer aujourd'hui sur des outils satellitaires comme les outils Copernicus développés par l'Union européenne et qui permettront de réduire les coûts. De la même façon, on a développé avec les stations météo qui se sont démocratisées chez les agriculteurs des outils très précis pour anticiper l'apparition des maladies sur un certain nombre de plantes. Et j'allais vous dire aujourd'hui, par exemple, sur certaines maladies, on sait les prévoir avant de voir les premiers symptômes apparaître. Et donc, on sait dire à l'agriculteur deux choses. D'abord, tu ne traites pas s'il n'y a aucune raison, c'est-à-dire si le modèle avec ta station météo ne prévoit pas d'apparition de la maladie. Et à l'inverse, s'il prévoit une apparition de la maladie, tu traites juste au bon moment pour limiter au maximum l'usage de phyto et donc un gain économique et un gain environnemental pour l'agriculteur.
Pardon Sébastien, je vais être obligé de vous interrompre parce que Julien de Normandie nous rejoint. On va reprendre le fil de votre exposé, mais comme il a une contrainte, il doit partir à midi. Si vous le permettez, je vais interrompre votre présentation. On reprendra ces éléments très, très concrets. Je vais vous demander effectivement de libérer le partage et on va accueillir donc sans plus attendre donc Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Voilà, qui est avec nous.
Bonjour à toutes et tous, est-ce que vous m'entendez bien ?
Très bien, c'est parfait, monsieur le ministre.
Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et tous. D'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Et désolé à Sébastien Winsor, j'ai l'impression d'avoir coupé sa présentation. Je prie Sébastien de bien vouloir m'en excuser. Mais comme vous l'avez dit, j'ai une contrainte impérative à midi et je vous laisse imaginer que les journées sont un peu compliquées en ce moment.
On l'entend parfaitement, donc il n'y a aucun souci.
Ce moment d'échange avec vous.
Monsieur le ministre, on souhaitait effectivement partager avec vous ces enjeux stratégie nationale, ce plan de relance de l'agriculture et aussi la démarche French Agri qui a été soumise à votre prédécesseur et puis qui vous a également été soumise, les préliminaires de cette démarche, la French Agri, après la French Tech et la French Fab. Voilà, ce regard sur une stratégie nationale d'innovation agricole et de portage de cette innovation, notamment à l'international.
Bien. Et donc, comme je vous le disais, moi, je tenais à être avec vous ce matin, d'abord pour soutenir l'action qui est la vôtre, soutenir l'activité qui est la vôtre et soutenir la vision, la démarche que sont les vôtres. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que on est dans un contexte tout à fait singulier. Qui impose parfois de penser un peu différemment et qui, en tout tas de causes, impose de penser innovation. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Ce contexte singulier, c'est évidemment la période difficile que nous traversons avec la crise de la Covid. Et la crise de la Covid, en fait, elle est pleine d'enseignements. Même si on est encore dans cette crise, on peut d'ores et déjà en tirer un certain nombre d'enseignements. Le premier enseignement, c'est qu'on a un actif très important, qui est cette résilience agroalimentaire française, je dirais même plus européenne. Et cette résilience, elle n'était pas gagnée par avance, elle est d'abord permise par les femmes et les hommes à qui je voudrais vraiment rendre hommage de toute la chaîne alimentaire qui travaillent ardemment pendant cette période compliquée. Mais cette résilience, elle est aussi permise par un certain nombre de modes de production, de diversité des territoires, de diversité des terroirs. Et puis la crise, elle met aussi en avant un deuxième retour d'expérience, c'est que si elle confirme la résilience du modèle agroalimentaire et de l'agriculture française, en même temps, elle met en avant un certain nombre de dépendances qui ont été profondes depuis des années, mais que la crise agit tel un révélateur sur ces dépendances. Il y a des dépendances qui, au final, aujourd'hui, mettent en question notre souveraineté agroalimentaire. Or, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, moi je pense qu'il y a une vision très importante pour la politique agricole et agroalimentaire, c'est la question de la souveraineté. On pourrait parler de la souveraineté aux intrants, par exemple la gestion en eau, qui est quelque chose qui aujourd'hui est questionné dans beaucoup de territoires. On pourrait parler de la dépendance à ce que moi j'appelle une dépendance démographique, c'est-à-dire qu'on a environ la moitié des agriculteurs et des éleveurs qui, dans les 5 à 10 prochaines années, partent à la retraite. Si on ne règle pas durablement la question des rémunérations, cette dépendance démographique va finir par poser un très gros problème. On pourrait parler de la dépendance dans certains nombres d'importations. Regardez tout le travail qu'on peut faire avec les chambres et beaucoup d'entre vous sur la question de la dépendance aux importations de protéines sud-américaines. Est-ce qu'il est encore concevable que le système organisé depuis une cinquantaine d'années qui en fait a donné la souveraineté protéique quasiment mondiale au continent américain et maintenant au continent sud-américain, puisse être accepté, alors même qu'on appelle à cette souveraineté agroalimentaire française. À l'évidence, non. Et puis, on a des dépendances également qui, tout au long de la chaîne de valeur, aujourd'hui nous imposent. Et donc, face à ce contexte inédit, révélateur à la fois de notre résilience et de notre dépendance, il nous faut absolument jouer, j'en suis persuadé, la carte de l'innovation. D'abord, on ne le dit pas suffisamment, mais l'agriculture, de manière générale, est un secteur profondément technologique et profondément innovant. C'est pas su, c'est trop peu su. Alors que c'est vrai du machinisme agricole en passant par les modes culturels tout en s'arrêtant sur la recherche variétale et en imaginant à la fois les protéines de demain ou les modes de production de ces dernières. Et donc l'innovation, moi je pense qu'il faut l'affirmer crânement, le secteur de l'agriculture est un secteur innovant. Et je dirais vis-à-vis de cette dépendance que j'évoquais sur la dépendance démographique, l'attrait de la nouvelle génération vers de nouveaux métiers, assumer, assurer, mettre en avant, être fier de ce caractère innovant et technologique de l'agriculture me paraît d'autant plus important. Quand vous montiez dans une moissonneuse-batteuse il y a 25 ans ou quand vous montez aujourd'hui dans une moissonneuse-batteuse, c'est juste rien à voir. Et ça, ça a été permis grâce à l'excellence française dans ces innovations qui aujourd'hui fait partie des secteurs d'excellence mondiale. Et on l'a vu, c'est la première année où je participe à votre séminaire Smart Agri, mais le Cantal est une terre d'innovation. J'étais il y a un an à Ruralitique et on voyait bien à quel point l'innovation mise en avant dans nos territoires et singulièrement dans le monde agricole aujourd'hui est très important. C'est vrai, cette innovation dans les technologies, parce que c'est ce qui nous, à chaque fois, nous vient à l'esprit dès lors qu'on parle d'innovation. Alors sur la technologie, il y a plein de choses à faire. Et pour répondre à votre question, le plan de relance va être un vecteur important pour financer des nouveaux agroéquipements. On va, et on a déjà acté, une ligne de financement de 135 millions d'euros pour moderniser les agroéquipements. Et je voudrais remercier notamment les acteurs, et en particulier Sébastien Winford et les équipes des chambres, parce que là, on fait un travail très, très fort pour justement diffuser l'accès à ce plan de relance et notamment, par exemple, cette ligne de 135 millions d'euros dans l'innovation technologique des agro-équipements. C'est quoi le pulvérisateur de demain? C'est quoi la bineuse de demain? Et d'ailleurs, pour vous dire, non seulement on finance à titre d'acquisition du matériel 135 millions d'euros pour les agro-équipements, mais on va financer la recherche dans les agro-équipements de demain parce qu'on sait qu'on a des impasses aujourd'hui en termes d'innovation d'agro-équipements. Le deuxième exemple dans ces technologies, c'est tout ce qu'on peut faire sur la préservation ou plutôt l'adaptation aux effets du changement climatique ou aux aléas du changement climatique. On sait aujourd'hui, par exemple, que vis-à-vis des épisodes de grêle, des épisodes orageux, vis-à-vis de la canicule, il y a des technologies qu'on peut utiliser. Mais ces technologies, elles sont encore trop onéreuses où elles viennent imposer des capacités d'investissement que nos agriculteurs, nos éleveurs n'ont pas forcément. Et donc, dans le plan de relance, au-delà de ces 135 millions d'euros sur les agroéquipements, on va mettre 100 millions d'euros dans le financement de matériel de prévention des aléas du changement climatique, avec exactement le même souci d'efficacité, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur les réseaux locaux, des chambres, les services de l'État, pour accompagner les agriculteurs dans le montage de ces dossiers. Et je tiens à dire que l'innovation technologique de ces dossiers, de ces équipements, on va essayer de la translater dans l'innovation administrative de l'accès à ces financements. Là aussi, il va nous falloir être innovants. Et Sébastien Winsor le sait bien, on va essayer en fait de passer, vous savez, de ces fameux appels à projets qui ne cessent d'être plus chronophages les uns que les autres, à des systèmes de catalogue. Mais qui est une sacrée innovation administrative. De dire, par exemple, sur les agroéquipements, on s'est déjà mis d'accord sous le contrôle de Sébastien sur à peu près 600 références. Ça permettra à l'agriculteur tout simplement de cocher parmi ces 600 références et de ne plus avoir à constituer des dossiers incroyablement complexes. Le deuxième grand secteur d'innovation, au-delà de la technologie, c'est évidemment les innovations de plus long terme sur les recherches variétales. Vous savez à quel point la France est dans l'excellence sur ces sujets. Moi je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou, de nouvelles technologies. Vous avez peut-être suivi tous les débats sur ce qu'on appelle les NBT, qui est un sujet très complexe parce que nous avons un cadre d'innovation qui n'est plus compatible avec le cadre juridique qui date du début des années 2000. Et donc qui nécessite à un moment donné de mettre en adéquation un cadre juridique avec un cadre technologique et d'innovation. Et puis le troisième gros secteur d'innovation essentiel, je pense, c'est l'innovation territoriale. Cette innovation territoriale, on peut le prendre à plein d'égards. Vous pouvez le prendre d'abord à une échelle très restreinte du territoire, à l'échelle de plusieurs fermes, de plusieurs élevages. On voit aujourd'hui à quel point on peut faire de la mutualisation d'innovation ou de la mutualisation technologique. On fait déjà de la mutualisation de matériel. On a même créé des formes juridiques de mutualisation, au-delà même des coopératives. Mais on peut aller plus loin sur de la mutualisation du matériel d'innovation dans la prédiction météorologique, dans l'utilisation d'un certain nombre d'intrants, dans la mutualisation technologique de la logistique. On sait à quel point la logistique est une source de coûts de l'agriculture très importante. À l'échelle territoriale, on peut ensuite monter à un cran plus important, c'est l'organisation territoriale de l'amont à l'aval. Et là, il y a plein d'exemples d'innovations qui sont incroyablement importants. Ces innovations, elles sont importantes à l'échelle du territoire à partir du moment précisément où en plus on répond à la demande sociétale. Prenez par exemple dans le département du Cantal les structures innovantes qui ont été créées sur par exemple l'agri-local ou sur par exemple le drive fermier qui aujourd'hui regroupe plusieurs centaines de producteurs. Ce sont des innovations qui ont permis en fait de concilier entre les outils d'innovation la rencontre entre la demande sociétale et la production telle que nous la faisons ou telle qu'elle doit être faite vis-à-vis de la demande sociétale. C'est répondre au final à une tendance qu'on a observée pendant le premier confinement et qui continue à observer aujourd'hui, de la consommation locale. Vous m'avez sûrement peut-être déjà entendu sur ça. Moi, j'ai deux maîtres mots, c'est la souveraineté agroalimentaire et c'est la consommation de produits frais et locaux. La consommation de produits frais et locaux, ça ne peut pas être un discours incantatoire ou un discours avec une injonction. C'est une organisation innovante territoriale. C'est l'organisation de la filière, l'organisation de l'amont à l'aval et l'organisation de la distribution. Et à ce titre, on voit un maillage du territoire avec beaucoup de ces innovations sur lesquelles il est possible d'aller plus loin. Par la faisabilité de l'innovation en termes de connexion, par la faisabilité de l'innovation en termes de rapprochement de l'offre et de la demande, par la faisabilité de l'innovation en termes d'outils de production. Et AgriLocal, Drive Fermier en sont de très bons exemples. Et pour généraliser cela, on est en train, dans le cadre du plan de relance là aussi, de mettre en avant un dispositif très important que sont les plans d'alimentation territoriaux. Ces plans d'alimentation territoriaux, ils organisent territoire par territoire l'accès justement à ces contrats innovants de l'amont à l'aval. Toujours, si je reste sur le département du Cantal, mais vous avez par exemple les programmes, les projets alimentaires territoriaux à Saint-Flour ou sur le territoire Haute-Terre Communauté. C'est des exemples très concrets de plans, de projets alimentaires territoriaux qui marchent. La difficulté face à ça, c'est que l'État ne finançait que très peu ces dispositifs. On finançait à hauteur de 6 millions d'euros depuis les 4 dernières années, 6 millions d'euros en 4 ans. On a décidé de financer 80 millions d'euros en 2 ans pour justement financer tous ces produits d'innovation qu'on peut faire. Je vous donne un exemple. On sait, par exemple, et c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important parce que c'est un dispositif qui, à mes yeux, est essentiel pour lutter, y compris contre l'inégalité alimentaire, c'est le sujet des cantines. Il nous faut être beaucoup plus innovants dans l'accès à une nourriture de qualité dans nos cantines. Mais il ne suffit pas de le dire. Les cantines, aujourd'hui, ça dépend des collectivités, que ce soit collectivités, municipalités, départements ou lycées. Il nous faut pouvoir accompagner. Prenez le sujet, par exemple, des perturbateurs endocriniens liés aux modalités de cuisson dans les cantines. Aujourd'hui, on a l'innovation pour rompre avec ces sujets-là. Il faut passer d'un certain type de plat en plastique, par exemple, à des plats en inox. La difficulté, c'est que si vous faites ça, vous devez changer et être innovant dans le mode de cuisson lui-même. Évidemment, vous n'allez pas mettre au micro-ondes un plat qui n'accepte pas les ondes du micro-ondes. Ben là, pareil, dans le cadre du plan de relance, on va financer à hauteur de 50 millions d'euros pour accompagner ces innovations territoriales. Bref, je terminerai par dire, on vit un moment singulier. Ce moment singulier, il nous oblige d'abord à faire face, à montrer que le bateau tient le cap en dépit de la tempête, mais il doit aussi nous imposer cette lucidité en termes de retour d'expérience qu'on peut faire. Et si on peut être fier de la résilience de nos systèmes, je pense qu'il nous faut être humble vis-à-vis des dépendances de ce système. Et face à ça, moi, je ne connais pas de meilleure stratégie que de la stratégie d'innovation, de penser différemment, de savoir s'adapter, de tirer profit de l'intelligence technologique, mais aussi de l'intelligence des territoires. Et le plan de relance, il est vraiment fait et il est là pour accompagner. Ce ne sera pas le seul outil. J'aurais pu parler de la politique agricole commune qui doit être un vecteur d'innovation. J'aurais pu parler de la gestion intelligente des modes de production qu'on accompagne à travers la recherche et le développement de manière générale, que ce soit dans le cadre du plan Ecophyto ou dans le cadre des plans d'investissement d'avenir. Mais le plan de relance, en 2 ans, il va mettre des centaines de millions d'euros de subventions pour réussir à construire cette agriculture plus forte demain qu'elle ne l'est aujourd'hui, qui, à mes yeux, et je conclurai par cela, est extrêmement importante parce qu'il n'existe pas à travers le monde de pays forts sans agriculture forte. Ça n'existe pas. Et donc, il nous faut absolument avoir, et je fais bien les initiatives, là aussi pour répondre à votre question, les initiatives qui sont les vôtres, le titre même de Smart Agri, on a inventé, moi, fut un temps, j'ai beaucoup travaillé sur la Smart City. La Smart City, c'est la gestion innovante des fluides avant des flux avant toute autre chose. Bon, l'agriculture, on a la possibilité de faire cette gestion innovante des fluides et des flux, que ce soit dans la technologie du machinisme, dans la technologie des variétés, dans la technologie face aux dépendances aux intrants, ou dans la technologie dans les territoires eux-mêmes qui là nous permet de passer du fluide au flux et qui sont tout aussi importantes. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire, vraiment en m'excusant de ne rester que trop peu de temps avec vous, mais on a, comme vous pouvez l'imaginer, en ce moment des journées assez compliquées, voire très très compliquées, mais je voulais vraiment pouvoir vous dire cette vision, ces quelques mots, et surtout vous témoigner de tout mon soutien et de toute ma gratitude vis-à-vis de ce que vous faites.
Merci, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Tout le monde ici vous salue. Bruno Faure, président du Cantal, Patrick Escure, président de la Chambre d'agriculture, et bien sûr Sébastien Windsor qui est en ligne. Merci beaucoup.
Merci à vous et puis à très bientôt. J'espère dans le Cantal, je suis un Cantalien d'adoption désormais.
Nous le savons, vous êtes le bienvenu.
Merci.
Sébastien Windsor, on revient à vous.
Merci.
Voilà, merci. Et peut-être juste avant de reprendre le fil de votre réflexion, peut-être réagir aux propositions de Monsieur le Ministre, enfin, ce qu'il a annoncé et auxquelles, de toute façon, en termes de processus, vous êtes étroitement associé.
Alors, je pense que je vais plutôt y revenir dans la suite de ma présentation.
Ça marche. Parce
que, en fait, dans les illustrations,
super.
Je pense que je peux trouver quelques exemples. Du coup, je vais repartager mon écran. Si j'y arrive. Quelques secondes. Voilà.
Oui, oui.
Alors, j'étais juste en train… Voilà, je m'étais arrêté au moment où j'essayais d'illustrer par des exemples, mais je voulais revenir sur le fait que voilà, le rôle des chambres, je veux le redire, c'est avant tout le rôle de l'extrémité de la chaîne, c'est-à-dire de transférer ces innovations aux agriculteurs, d'accompagner les agriculteurs dans l'adoption de ces innovations. Alors, quand on a ce rôle-là, bien sûr, on a un rôle un peu en amont qui est celui d'identifier les besoins des agriculteurs et donc de communiquer vers la multitude de start-up, d'acteurs de l'innovation agricole pour exprimer le besoin. Et puis, on a le besoin de les accompagner aussi pour la mise au point de processus. Mais je le redis, notre rôle final, c'est vraiment celui d'aller jusqu'au dernier kilomètre. C'est d'ailleurs souvent les propos du ministre pour caractériser les chambres. C'est celui de porter ces innovations aux agriculteurs. J'avais pris quelques exemples d'éléments. Je suis revenu sur la fertilisation avec ce rôle qui a été d'accompagner les pionniers et Farmstar et puis la démocratisation via des outils smartphones maintenant et via, j'allais dire, des outils satellitaires européens qui donnent de l'imagerie qui est mise à disposition gratuitement, donc qui vont nous permettre de réduire très fortement les coûts. Avec voilà, une offre qui sera en plus collée au logiciel Mes Parcelles. Donc, sur une même plateforme, l'agriculteur pourra enregistrer sa traçabilité, pourra accéder à des outils, comme je l'expliquais, de prévision des maladies avec des conseils adaptés en termes de phyto, et puis gérer sa traçabilité. Et là aussi, on fait tout pour l'aider dans la traçabilité. Nous sommes en train de mettre au point des box qui seront, ou matérialisées quelque part avec une application sur le smartphone ou avec une boîte carrément dans le tracteur comme celle que vous voyez, c'est mon pulvérisateur dont il s'agit là, et qui permet de lire ou les codes barres par un lecteur optique ou encore mieux des puces RFID qu'on colle sur les bidons et qui permet de gérer la traçabilité. Cette boîte-là, elle détecte comme n'importe quel téléphone là où le pulvérisateur est allé et elle permet à l'agriculteur de tracer quel produit il a mis, à quelle quantité, sur quelle parcelle et de faire ses enregistrements en live. On a la même chose qui s'applique à l'élevage, hein, de plus en plus avec des technologies de puces et d'identification d'animaux par des puces, les boucles électroniques demain, la possibilité d'enregistrer les traitements vétérinaires en direct, et on pourra le faire en utilisant son smartphone au moment où on va faire voilà, une piqûre pour soigner un animal, d'enregistrer quel animal en lisant sa boucle et d'assurer la bonne gestion, de suivre ses traitements. On avance aussi et on essaye de faire beaucoup de travail de mise au point et d'accompagnement des agriculteurs autour de l'utilisation de robots. Alors, vous avez là des robots en grande culture ou en maraîchage qui commencent à généraliser. Et là, vous me demandiez d'illustrer les propos du ministre, mais l'accès à ces robots qui commencent à se démocratiser, je dis bien qu'ils commencent tout juste, eh bien, il est facilité, il est rendu possible, alors que ce sont des technologies qui coûtent encore relativement cher aujourd'hui, par des aides qui seront apportées dans le cadre du plan de relance. Alors là, vous avez les exemples les plus extrêmes.
C'est ce que le ministre a appelé moderniser les agroéquipements, ça ?
Exactement. Vous pouvez, par exemple, avoir une bineuse qui, au lieu de passer à 6-7 cm de la plantule, avec des caméras, arrive à se rapprocher à 2 cm de chaque côté de la plantule quand vous la tirez derrière un tracteur, en venant bouger votre bineuse sur un axe transversal pour s'approcher au plus près de la culture. Ça, ce sont des options qui coûtent, j'allais dire, quelques dizaines de milliers d'euros, et le plan de relance peut aider globalement à ramener le coût de ces matériels à des coûts de matériel un peu plus standards et donc aider l'accès à ces technologies. Même chose autour du bien-être animal ou autour du sanitaire, tout ce qui va être robot pour accompagner le nettoyage, la nourriture des aliments doit pouvoir demain être éligible dans le plan de relance et faciliter la vie des agriculteurs, mais aussi améliorer le bien-être de nos animaux ou le sanitaire. Et puis, voilà, on a aussi quelques équipements, il y en a quelques-uns qui sont illustrés là, qui sont de l'innovation, qui n'est pas vraiment de l'innovation de rupture, le fait de capter les menus paille derrière une moissonneuse batteuse pour éviter de remettre les mauvaises graines dans le champ, le fait d'avoir, comme vous l'avez en bas à gauche, un lamier qui vient couper les mauvaises herbes qui dépassent pour faire des interventions mécaniques, tout ça sera aidé dans le nouveau plan d'agroéquipement et, comme vous l'avez au milieu, des matériels encore plus sophistiqués avec des caméras qui vont permettre de ne déclencher les produits que quand l'adventice est présent. Et voilà, on a énormément de choses. Et donc, le rôle des chambres d'agriculture, c'est bien d'accompagner l'agriculteur dans le choix du bon investissement, parce qu'il ne peut pas non plus, il a des capacités d'investissement qui sont limitées, dans le fait de s'y retrouver dans le plan de relance sur les aides, et puis dans le fait de bien utiliser ses investissements pour qu'il en tire le meilleur profit pour lui, pour l'environnement, pour la valorisation de ses produits. Et puis, au-delà de ces innovations très techno que je vous ai montrées, je l'ai dit tout à l'heure, on a des innovations à pousser sur la commercialisation, le fait de développer les drives fermiers, le fait de demain pouvoir mettre des produits à disposition dans des casiers, par exemple. C'est une innovation toute bête, mais c'est une innovation qui va rapprocher le consommateur du producteur et qui va permettre d'aller amener de la valeur au producteur. Le fait de valoriser le carbone que l'on stocke dans nos sols par la capacité de le mesurer, la capacité de le caractériser, de revendre des crédits carbone, c'est une innovation qui est devant nous et sur laquelle on travaille beaucoup. Et puis, qui là aussi sera facilité très largement par le plan de relance avec des appuis à ces diagnostics chez les jeunes agriculteurs. Et puis, toute l'innovation territoriale, hein, je vais reprendre les mêmes mots que le ministre, mais je l'avais cité dans mes propos, je l'avais inscrit dans mes propos, cette capacité à aller trouver des nouveaux débouchés, à aller améliorer de la logistique locale pour rendre nos produits accessibles à un plus grand nombre, tirer un peu plus de valeur de ces produits qu'on va vendre dans des circuits courts ou au moins dans une grande proximité, avec des outils de mise en relation, avec des outils de gestion logistique pour optimiser les flux et limiter les coûts pour les agriculteurs et accéder à de nouveaux marchés en faisant ce travail avec les collectivités. Et le rôle des chambres sera là aussi majeur, de travailler avec ces collectivités pour développer, par exemple, au travers des projets alimentaires territoriaux, la capacité de mettre plus en avant les produits locaux. Donc voilà, vraiment un très très large spectre d'innovation. Et notre rôle aux chambres, c'est vraiment, et ça nécessite d'être de plus en plus pointu, c'est vraiment sur ces innovations de faire tout le travail pour les amener aux agriculteurs, en réduire le coût, en optimiser l'utilisation et faire en sorte que voilà, ces innovations soient diffusées à un large nombre. C'est, je crois, l'ancien slogan de la SNCF, le progrès ne vaut qu'il est, que s'il est partagé par tous. C'est un peu la doctrine que s'appliquent les chambres autour de l'innovation. On est l'acteur du dernier kilomètre qui permet de partager l'innovation à tous. Et on aura du coup, avec le plan de relance, j'allais dire, des moyens supplémentaires pour aider les agriculteurs à accéder à ces innovations de façon très large.
Merci. Merci Sébastien Windsor. Merci beaucoup. Alors que sur le chat, effectivement, on nous porte la proposition d'un technocuma, hein, un outil de peut-être de mutualisation de la techno entre agriculteurs. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bruno Faure, votre votre réaction, votre vision par rapport à ce que vous avez entendu à la fois de Sébastien Windsor, qui représente les chambres, qui sont vos interlocuteurs de référence. Il parle du travail avec les collectivités sur les projets alimentaires territoriaux, et puis plus largement la vision sur ce plan de relance.
Je crois que la présentation qui a été faite par le président de la PCA hein, sur les technologies, enfin les avancées technologiques, je crois que ça démontre effectivement tout le potentiel qu'il y a. Ce matin, vous avez dû garder aussi, vous avez dû travailler sur ou évoquer des dossiers sur on gagne du temps, on améliore ses productions, on anticipe. Des innovations permettent de trouver des aides à la décision pour les éleveurs. C'est de la mise en commun, non pas en commun, mais en contact aussi au niveau des clients. C'est tout le champ qui est devant nous. Donc, on voit que le potentiel est énorme. Et donc, sur le plan de relance, effectivement, je crois qu'il faut trouver quelque chose de simple. C'est ce qu'a dit le ministre.
Innovation administrative.
Innovation administrative.
C'est deux mots qui… Waouh, ça…
J'espère
c'est presque un oxymore.
J'espère effectivement qu'on pourra… Enfin, que ça sera vérifié, mais c'est essentiel parce que je crois que sur cette innovation, il faut aussi aller vite. Il y a des besoins, il faut les faire connaître. C'est aussi un enjeu important. On parlait d'agribashing sans que ce soit de l'agribashing, mais c'est un moyen aussi de bien mettre en avant, de travailler l'image de l'agriculture vis-à-vis de l'ensemble de la population qui souvent ont une image du tracteur qui passe sur la route, alors on a un milieu d'élevage, voilà, et ça s'arrête là, alors qu'effectivement, on a des agriculteurs, c'est un métier qui est très en pointe et qui est très technique, et je crois que toutes ces innovations, à n'importe quel niveau qu'elles soient, sont essentielles à diffuser, effectivement, dans l'image collective de la société française pour faire voir que c'est un métier de pointe. Et donc, ce plan de relance, il était tout à fait logique que l'agriculture puisse en bénéficier sur cet aspect innovation, parce qu'aujourd'hui, on va venir sur les problématiques de marché. Et on voit très bien que la profession a des difficultés pour peser sur les filières. Malgré tout ce qui a été fait dans le cas des différents pays, il est difficile de peser sur les filières, sur la valorisation. Et donc, un des moyens qui permet d'avoir un meilleur revenu, ou de le maîtriser un peu mieux, c'est de jouer sur les charges. Et l'ensemble de ces innovations qui contribuent à aider à la décision, à mécaniser, à limiter les coûts, sont les bienvenus pour les agriculteurs.
Et le ministre en parlait, il y a les cantines. Ça, c'est un grand sujet pour le président de département qui est en charge les collèges. Et puis avec la réponse agri-locale qu'on a évoquée un peu ce matin, qu'on évoquera encore cet après-midi. Mais il y a des choses qui sont très efficaces aujourd'hui.
Il y a des choses qui sont très efficaces, oui. D'autant plus, toute la France est agricole. On a nos produits qui sont sur place. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est comment faire savoir, comment faire rentrer dans les mœurs, effectivement, qu'au lieu de commander sur un catalogue, on a le produit qui est de l'autre côté de la route, de la rue. Là aussi, il y a une organisation à mettre en place au niveau des agriculteurs. Il faut aussi les sensibiliser au fait qu'ils peuvent vendre directement. C'est vrai que le métier d'agriculteur est quand même compliqué. On demande beaucoup de choses, on demande de produire, on demande des fois de transformer, on demande d'être aussi un commercial parce qu'il faut, il faut vendre, on leur demande aussi de s'intéresser à la suite, si les clients sont sympas ou enfin, sont contents ou quoi, donc ça fait quand même beaucoup de métiers en un, il faut quand même en être conscient. Et je crois qu'effectivement, il faut imaginer aussi, et donc il faut sensibiliser les agriculteurs à dire, bon, dans ce que vous produisez, peut-être qu'en faisant une étape supplémentaire, vous arriverez à valoriser sur place. Donc, il faut s'intéresser effectivement à ce qu'attend le client, à lui faciliter les choses. Mais ça veut dire des organisations collectives, ça veut dire de l'innovation sur les outils, parce qu'on pute souvent sur la logistique. Là, on a un produit, on a un utilisateur. Comment fait-on pour les mettre en contact? Comment fait-on pour gérer le conditionnement? Comment fait-on pour gérer? Que faut-il faire pour arriver à amener ce produit? Enfin, il y a tout un tas de points qui sont à travailler. Ça peut se faire que de manière collective. Et dans ce cadre-là, l'innovation, qu'elle soit technologique ou autre, est essentielle.
Merci Bruno Faure. Je voudrais confier le mot de la fin à Sébastien Windsor, président de la PCA. Je vous remercie encore de votre présence parmi nous. Alors, de quoi on parlera dans un an au prochain Smart Agri Forum? On fera le bilan de la première année du plan de relance agricole?
Moi, j'allais vous dire, on fera le bilan de la première année du plan enfin voilà, un bilan intermédiaire des transformations que ça a permis d'amener. Et puis, j'allais dire, on a un autre sujet très, très à cœur et on vient de lancer la première plateforme numérique d'échange de données agricole qui est en train de prendre son envol. Et voilà, j'espère qu'on saura, au travers de cette plateforme numérique qui s'appelle AgData Hub, faire en sorte que demain, les données du monde agricole qui sont très morcelées entre X acteurs puissent converger pour amener de nouvelles utilisations, de nouveaux outils d'aide à la décision, plus de conseils, plus de performance aux agriculteurs, et que là aussi, on sera montré qu'à travers cette plateforme, comme l'a dit le ministre d'ailleurs, on est plutôt à la pointe, parce que je pense qu'aujourd'hui, le seul secteur qui a ce type de plateforme en France, c'est la santé. Et donc, on montrera que, comme la santé, on a tiré profit du numérique pour amener et tirer profit de l'innovation pour amener, j'allais dire, plus de relations entre le monde agricole et nos concitoyens, en tirer un peu plus de valeur ajoutée dans le monde agricole, ce qui reste quand même un enjeu important, et répondre aux attentes de nos concitoyens.
Et garantir notre souveraineté, encore une fois.
La souveraineté, et au-delà de la souveraineté, une réappropriation de l'endroit de production, du fait que l'agriculture est producteur d'alimentation, et puis du lien où j'achète un produit, il y a un agriculteur derrière, ça ne vient pas de nulle part,
non.
Ça vient de quelque part à côté de chez moi, de préférence.
Super, merci beaucoup. Ici, on vous applaudit.